Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Il nous faut agir en solidarité et en soutien au peuple ukrainien. Cette crise majeure aura des conséquences sur nos vies, notre économie et notre sécurité. Des mots du chef de l'État français dans un message lu simultanément cet après-midi par les présidents des deux chambres du Parlement. Lamiaël Arrache, députée sortante du 20e arrondissement, conseillère de Paris et porte-parole du Parti Socialiste, plaide pour une réaction collective très forte de l'ensemble des pays européens face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Elle est l'invitée de Pluriel à 19h et 23h, extrait dans votre journal. Le soutien vis-à-vis des Ukrainiens émane également de la société civile en France. SOS Racisme a participé à un rassemblement place de la République hier soir à Paris. Nous écouterons son président Dominique Sopo. Emmanuel Macron a reçu aujourd'hui François Hollande, puis Nicolas Sarkozy à l'Élysée pour créer une union nationale face à la gravité du moment. La seule voie possible est la diplomatie, car l'alternative à la diplomatie, c'est la guerre totale, a déclaré l'ex-président Nicolas Sarkozy en soutenant la stratégie de dialogue du chef de l'État. De bons progrès ont été accomplis dans les discussions entre le FMI et la Tunisie, c'est ce qu'indique le Fonds monétaire international après une visite virtuelle de représentants de l'institution. Nous y reviendrons avec le député et ancien ministre tunisien Samir Dilou. Le Koweït célèbre sa fête nationale, l'accession au trône d'Abdullah al-Sabah le 25 février 1950 et son décès le 25 février 1965. Plus qu'une semaine pour s'inscrire en mairie sur les listes électorales pour la présidentielle. Un appel à s'inscrire sur les listes est lancé sur Radio Orient par Samir El Bakali, le président de la Fédération nationale Mosaïque et président du collectif Nous aussi, vous l'entendrez. L'invasion de l'Ukraine par la Russie, les Européens ont décidé ce vendredi de sanctionner le président russe Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov par un gel de leurs avoirs dans l'Union Européenne. L'Ukraine, où des combats meurtriers opposent désormais les forces russes et ukrainiennes jusque dans la capitale Kiev. L'Ukraine qui a annoncé la mobilisation générale pour tenter de freiner l'offensive massive déclenchée par Vladimir Poutine. Le président français s'est adressé cet après-midi aux parlementaires à travers une lettre lue simultanément par les présidents des deux chambres, Richard Ferrand pour l'Assemblée nationale et Gérard Larcher pour le Sénat. Pour le président de la République, cette crise majeure aura des conséquences sur nos vies, notre économie et notre sécurité. Un extrait de sa lettre lue par le président de l'Assemblée nationale.
La guerre en Ukraine marque un tournant géopolitique et historique majeur du XXIe siècle et fait courir le risque d'un retour des empires et des conflits de frontières. Cette crise majeure aura des conséquences sur nos vies, notre économie et notre sécurité. Les sanctions ont un impact dans la durée. Elles ne sont jamais sans conséquences, y compris pour nous, mais nous l'assumons car c'est de la défense de nos valeurs dont il s'agit. Nous prendrons à cet égard toutes les décisions nécessaires afin de protéger nos compatriotes et nos entreprises. Cette épreuve vient confirmer à chacun que notre Europe n'est pas une union de consommateurs, mais bien ce projet politique de citoyens attachés à des valeurs et principes communs. C'est à ce titre que l'Union européenne doit pleinement devenir une puissance plus souveraine en matière énergétique, technologique et militaire. Je sais qu'au-delà des divergences qui vous opposent légitimement et qui garantissent la vitalité de notre démocratie, le Parlement saura répondre dans l'unité autour des principes fondamentaux inscrits dans notre Constitution, la souveraineté, la liberté et le respect du droit international.
Un extrait de la lettre d'Emmanuel Macron, lue cet après-midi par le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Lamiel Arrache, députée sortante du 20e arrondissement, conseillère de Paris et porte-parole du Parti socialiste. Elle plaide pour une réaction collective très forte de l'ensemble des pays européens face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Extrait.
Je crois que, comme tout citoyen européen ce soir, je suis sincèrement atterrée et profondément inquiète. C'est vrai que pour nous, de notre génération aussi, la construction qui est celle de l'Europe, c'est un projet de paix avant toute chose, c'est un projet de stabilité, c'est une vision d'ensemble de ce que doit être aujourd'hui ce vieux continent. Et de voir aujourd'hui que cette paix est menacée, enfin plus que menacée, puisqu'elle a été attaquée du fait de l'offensive d'une personne agissant seule au détriment à la fois de notre sécurité, au détriment de notre projet d'avenir, au détriment de tout ce qu'on a construit pendant toutes ces années, franchement, je suis extrêmement inquiète et je ne sais pas bien ce que tout ça va donner, mais ça n'augure rien de bon. Donc j'espère qu'on va avoir une réaction collective très forte, que l'ensemble des pays européens vont se dresser contre cette menace et adopter à la fois une voie très ferme, mais aussi des sanctions très dures à l'encontre de la Russie pour que tout cela cesse le plus vite possible. Et évidemment, j'ai une pensée pour les citoyens ukrainiens ce soir et je leur adresse toutes nos pensées solidaires et fraternelles dans cette très douloureuse épreuve que nous vivons avec eux.
Lamiel Arrache, députée sortante du 20e arrondissement, conseillère de Paris, porte-parole du PS, invitée de Pluriel à 19h et 23h, émission présentée par Loïc Barrière. Sur le front diplomatique, un sommet de l'Alliance Atlantique s'est déroulé en visioconférence ce vendredi. Emmanuel Macron a annoncé à Bruxelles que la France allait accélérer le déploiement de soldats en Roumanie. Le chef de l'État français qui a reçu aujourd'hui François Hollande, puis Nicolas Sarkozy à l'Élysée pour créer une union nationale face à la gravité du moment. La seule voie possible est la diplomatie, car l'alternative à la diplomatie, c'est la guerre totale, a déclaré l'ex-président Nicolas Sarkozy en soutenant la stratégie de dialogue d'Emmanuel Macron. La mobilisation et le soutien vis-à-vis des Ukrainiens émanent également de la société civile en France. Mobilisation d'associations comme SOS Racisme, qui avait appelé un rassemblement en place de la République hier soir à Paris, son président Dominique Sopo.
Nous sommes face au retour d'une guerre potentiellement d'ampleur sur le territoire européen. Ça fait extrêmement longtemps que nous n'avons heureusement pas vécu ce type de situation. Hein. Les dernières guerres d'ampleur sont des guerres qui ont concerné pour l'essentiel l'ex-Yougoslavie. Et là, on voit bien que manifestement, il y a une volonté très guerrière, très inquiétante de Vladimir Poutine, qui est en train de renverser des équilibres dont on sait qu'ils sont fragiles. Le deuxième élément, c'est que lorsque l'on est antiraciste, on ne peut pas admettre qu'un peuple soit asservi sous le joug impérialiste d'un autre pays. Et c'est ce qu'est en train de faire Poutine. Les peuples colonisés savent ce que ça veut dire, ou les anciens peuples colonisés savent ce que ça veut dire l'impérialisme, au nom duquel le colonialisme, justement, a pu s'épanouir pendant des décennies et des décennies. Et donc, lorsqu'un peuple est agressé, au-delà même, d'ailleurs, j'allais dire, d'une posture antiraciste, la moindre des choses, c'est d'être à ses côtés, de dire notre solidarité, de ne pas laisser l'oppression, le crime, puisqu'il y a déjà des morts, bien évidemment, à l'heure où on se parle, ne pas laisser l'oppression et le crime se déployer dans le silence.
Le président de SOS Racisme, Dominique Sopo. Au moins 4,6 millions de personnes en Syrie ont besoin d'aide humanitaire. C'est ce qu'indiquent les Nations Unies. En 2020, ce sont quelque 13,4 millions de personnes qui avaient été recensées comme ayant besoin d'assistance, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Le premier ministre libyen, désigné par le Parlement, annonce avoir achevé la formation de son gouvernement. Déjà miné par les divisions entre institutions concurrentes à l'Est et à l'Ouest, la Libye s'est récemment retrouvée avec deux premiers ministres rivaux à Tripoli après avoir manqué l'échéance électorale cruciale de la fin décembre dernier. De bons progrès ont été accomplis dans les discussions entre le FMI et la Tunisie. C'est ce qu'indique le Fonds monétaire international après une visite virtuelle de représentants de l'institution. Une mission en vue d'un éventuel nouveau prêt à la Tunisie, lourdement endettée. Le député et ancien ministre Samir Dilou revient sur le volet politique aujourd'hui en Tunisie.
Le problème, c'est c'est que le volet politique est extrêmement lié avec le volet économique et social, les réformes que le gouvernement doit faire. Et malheureusement pour le gouvernement, mais aussi pour la Tunisie, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas exercer un pouvoir quasi dictatorial et souhaiter être financé par le Fonds monétaire international ou à travers les relations bilatérales. Donc, je crois que la solution est bien connue. Reste au président de la République de décider. Soit continuer dans ce chemin d'un despotisme rampant, soit revenir à la raison et trouver une solution à travers laquelle ces réformes doivent être réfléchies, décidées et consenties, non seulement par le gouvernement, mais aussi par les acteurs sociaux, les syndicats, les partis.
Mais aujourd'hui, les demandes du Fonds monétaire international sont, selon vous, liées à la gestion de la Tunisie sur le plan politique ?
Ah oui, et ça a été exprimé de façon très explicite. Bien sûr, les réformes sont des réformes économiques, mais ça peut pas se faire sans discussion, sans l'aval du partenaire social, le GTT, sans justice libre et indépendante, etc. Les fondamentaux d'une société démocratique. Et malheureusement, c'est pas le cas actuellement en Tunisie. Et je vois très mal comment le Fonds monétaire international va s'engager en Tunisie, parce qu'il s'agit pas d'argent, il s'agit pas de prêts, mais aussi de l'aval du Fonds monétaire international qui va ouvrir le chemin pour la Tunisie d'espérer avoir des financements, soit à travers les relations bilatérales, soit d'autres fonds. Actuellement, c'est très très compliqué pour le gouvernement tunisien si le président continue dans ce chemin.
Le député et ancien ministre tunisien Samir Dilou. Le Koweït célèbre ce vendredi sa fête nationale, l'accession au trône d'Abdullah al-Sabah le 25 février 1950 et son décès le 25 février 1965. Les al-Sabah règnent sur le pays depuis le 18e siècle. Il ne reste plus qu'une semaine en France pour s'inscrire en mairie sur les listes électorales pour l'élection présidentielle. Les inscriptions seront closes le 2 mars sur Internet. Un appel à s'inscrire sur les listes est lancé sur Radio Orient par Samir El Bakali, le président de la Fédération Nationale Mosaïque et président du collectif Nous Aussi. Il vit à Clermont-Ferrand où des inscriptions racistes se sont multipliées ces dernières semaines. Samir El Bakali.
En votant, nous prenons part à la création de notre propre futur. Évidemment, aujourd'hui, c'est très nécessaire parce que malheureusement, il y a à la télé, à la radio, des discours de certains hommes et femmes politiques qui discrimine une partie de la population française, qui n'a pas le droit de répondre à travers les médias, malheureusement. Donc je pense que le seul moyen pour répondre et imposer le respect, c'est de s'inscrire et de voter.
Et il ne reste que 7 jours aujourd'hui pour s'inscrire sur les listes électorales, puisque les inscriptions seront closes en mairie le 4 mars.
Le 4 mars, donc il faut faire vite. Donc nous, on a décidé à travers des actions ici à mobiliser donc les familles, les jeunes qui seront et surtout dans les jeunes des quartiers politiques de la ville qui ne se considèrent pas comme des citoyens à part entière, mais plutôt des citoyens à part. Mais ils vont rester des citoyens à part si ils ne font pas donc le geste républicain. C'est un devoir pour moi de s'inscrire le plus vite possible, parce que vous l'avez bien dit, donc le dernier délai, c'est le 4 mars. En plus, l'inscription est facile, soit on se déplace à la mairie, soit via l'Internet. Il suffit de préparer des informations concernant l'adresse, carte d'identité, et donc c'est vite fait. Et nous-mêmes, donc nous, pour certaines personnes qui ont des difficultés pour s'inscrire, on essaie de leur donner un coup de main pour les inscrire et voir, les expliquer, leur montrer comment il faut faire.
Et sur Internet, les inscriptions seront closes dès le 2 mars. Une question sur le racisme et la discrimination. Vous, à Clermont-Ferrand, vous avez senti monter le racisme. C'est la raison pour laquelle vous avez monté ce collectif citoyen ?
Évidemment, donc à Clermont-Ferrand, récemment, depuis 6 mois, il y a eu des des tags partout, étrangers rentrés chez vous, morts aux Africains. Ce qui était très dur pour nous, c'est de voir ces tags sur les murs de l'université. L'université, un lieu de vivre ensemble, un lieu de savoir, à savoir que l'université clermontoise et ailleurs en France a été enrichie par des recherches et des thèses par l'intermédiaire de ces ambassadeurs et des ambassadrices qu'on appelle les étrangers, qui sont venus ici pour participer à la recherche scientifique de nos universités. Donc nous, suite à la banalisation de ces discours racistes, on s'est dit il faut répondre d'une façon intelligente. Cette façon, c'est de sortir, dire non au racisme, aussi de travailler avec d'autres associations qui militent sur le terrain contre le racisme. C'est un combat qui doit être mené par l'ensemble de citoyens et de citoyennes, sans oublier de mettre en avant ceux et celles qui sont souvent l'objet des actes discriminatoires, des sujets de discussion racistes, qui sont souvent absent des débats dans les médias, rarement présent dans les décisions et les débats politiques. Demain, on a une action très importante dans une salle qui s'appelle la salle Nelson Mandela, qui se trouve dans les quartiers politiques de la ville, quartier nord de Clermont-Ferrand. C'est une action intitulée « Non au racisme, oui pour le vivre ensemble », par l'intermédiaire de théâtre, par l'intermédiaire de la danse, hip-hop, par l'intermédiaire de la musique, et par l'intermédiaire d'un débat ouvert pour l'ensemble des publics qui va assister à cette manifestation culturelle contre le racisme. À partir de 16h à 4h, donc on ouvre les portes.
Samir El Bakali, le président de la Fédération Nationale Mosaïque et président du collectif Nous Aussi. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. Un grand merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme.